Donc Marie Desclingans, je suis démographe, enseignante chercheuse à l'Université de Nice, rattachée à l'URMIS, chercheuse associée à l'INED, et donc je travaille sur la question des mutilations sexuelles féminines depuis à peu près 10 ans avec Armel Andrault, dans le cadre, donc en France, dans le cadre du projet Excision et Handicap, et donc plus récemment aussi avec Armel et Elsley dans le cadre européen. Alors, je remercie tout d'abord donc, les trois intervenantes pour leur présentation très intéressante. Tout d'abord, je voudrais insister à la fois sur l'existence et sur la richesse des données aujourd'hui disponibles, et tout particulièrement donc, dans les pays où la pratique des mutilations sexuelles est pratiquée. Comme l'a rappelé Claudia Capa, l'introduction des premiers questionnaires donc, spécifiques aux mutilations sexuelles féminines date du début des années 90 et a ensuite été généralisée dans la quasi-totalité des pays où la pratique existait. Alors, ces données permettent d'avoir des informations très précises sur la pratique, sur ses déterminants et sur les tendances maintenant depuis une vingtaine d'années. Mais ces données sont également très précieuses pour les estimations réalisées dans les pays d'installation, notamment en Europe, comme on a pu le voir dans la seconde présentation. Enfin, comme le montre Armel Andrault, les résultats d'enquête réalisés dans les pays d'installation peuvent aussi permettre de réinterroger des catégories utilisées dans les enquêtes dans les pays d'origine. La question des données sur les mutilations sexuelles féminines et leur recueil ne se pose pas de la même façon selon les contextes, et les deux premières présentations en ont fait, je pense, la démonstration. Dans les pays d'origine, donc essentiellement ici le continent africain, même si effectivement d'autres pays, dans d'autres pays on observe aussi, mais dans des foyers relativement restreints, on peut observer ces pratiques. Donc dans les pays d'origine, la pratique, même si elle est en baisse, est historiquement et socialement intégrée, alors que dans les pays d'immigration ou d'installation, la pratique est non seulement socialement stigmatisée, mais aussi interdite et pénalisée. Donc cela a un impact évidemment sur le recueil des données, notamment par exemple à travers la plus ou moins grande facilité d'accès à la population concernée. Mais au-delà de ces variabilités, de ces spécificités donc dues au contexte, je pense que plusieurs questions méthodologiques sont communes. Et je voudrais d'ailleurs insister plutôt sur ces points communs et que justement cette rencontre internationale est tout à fait propice à un partage des expériences d'enquête réalisées à la fois donc sur le continent africain et en Europe, et à une réflexion en vue d'explorer et d'améliorer éventuellement les recueils de données concernant les mutilations sexuelles féminines. Donc première question, pourquoi finalement recueillir des données sur les mutilations sexuelles féminines? Donc on a eu évidemment des réponses, notamment dans les deux premières présentations, mais je dirais qu'indépendamment du contexte, finalement les objectifs sont relativement identiques. On cherche d'une part à mesurer l'ampleur du phénomène, combien de femmes sont concernées, à connaître les évolutions dans le temps, à appréhender les déterminants de la pratique et aussi à pouvoir justement mieux comprendre les mécanismes d'abandon ou de perpétuation de la pratique. Et on cherche aussi également à mesurer les conséquences de ces mutilations sur la santé. Et je crois qu'on aura lors de ce colloque justement plein d'exemples de ces enquêtes sur cette question. Et l'analyse de toutes ces données peut ensuite permettre aux acteurs politiques, associatifs et au monde médical à mieux cibler leurs actions et à mieux prendre en charge les femmes mutilées. Donc, dans les pays d'origine, comme nous l'avons vu dans la première présentation, les données permettent aujourd'hui d'avoir une mesure du phénomène dans le temps, d'en comprendre les déterminants sociaux et aussi de mesurer l'impact des politiques et campagnes mises en place depuis le début des années 2000 dans de nombreux pays africains. Et le travail récent réalisé par l'UNICEF exploite aussi les données concernant les filles, qui jusqu'alors n'avaient été que peu exploitées. Dans les pays d'immigration, l'objectif minimal est avant tout de connaître le nombre de femmes concernées, afin de pouvoir justement par la suite développer des politiques de santé publique ciblées et adaptées. Et la question des filles se pose également, et rejoint alors plus les préoccupations des EDS dans le cadre d'une réflexion sur les déterminants sociaux de la pratique et les moyens à mettre en œuvre de manière préventive. Alors concernant ce premier objectif, dans les pays européens, Comme l'a bien expliqué Elsley, on ne dispose pas d'enquête nationale qui permette d'avoir une mesure directe de la prévalence du phénomène dans ces pays. Il faut donc effectivement se débrouiller, bricoler, réaliser des estimations indirectes en combinant à la fois des données de recensement, d'enquête nationale ou de registre de population qui permettent d'abord d'identifier la population féminine originaire des pays à risque et d'appliquer ensuite les prévalences connues justement à partir des enquêtes DHS ou MIX. Donc en l'état actuel, comme l'a montré Elsley, il n'est pas possible de fournir un chiffre au niveau européen tant les données utilisées dans chaque pays sont différentes et que certaines informations sont lacunaires, telles que par exemple l'ethnie d'origine. Mais il apparaît néanmoins possible de surmonter un certain nombre de ces difficultés en proposant donc un modèle d'estimation qui serait réplicable dans tous les pays de l'Union à partir des données disponibles et qui, selon en fait les variables présentes dans les différentes données des pays, pourrait se décliner en plusieurs niveaux allant d'un modèle relativement basique où les taux de prévalence seraient appliqués à minima, par exemple selon l'âge et le niveau d'instruction, variables qui sont relativement commune, à un modèle plus détaillé prenant par exemple en compte l'ethnie ou à défaut par exemple pour l'approcher la région d'origine. Donc selon moi cette méthode d'extrapolation fonctionne plutôt bien dans les pays où les femmes concernées sont des migrantes arrivées récemment et arrivées je dirais à l'âge adulte ou du moins après l'âge de 15 ans, sachant que comme on l'a vu dans la première présentation, les mutilations sexuelles féminines sont majoritairement pratiquées avant l'âge de 15 ans. Mais cette méthode devient sans doute moins fiable quand il est question de femmes migrantes arrivées pendant leur enfance et se pose évidemment d'autant plus pour les femmes qui sont nées dans les pays européens, les secondes voire troisième génération. Donc concernant le second objectif, comme l'a rappelé Elsley, nous manquons évidemment d'informations sur l'influence de la migration. Cette influence de la migration agit en fait à différents niveaux et ne concerne au final pas les mêmes catégories de population, puisqu'il peut s'agir tout d'abord d'un effet de sélection de la migration, comme le montrent les enquêtes EDS. Outre l'origine ethnique, certains déterminants socio-économiques, comme par exemple le niveau d'instruction, sont des déterminants importants de la pratique. Et les femmes migrantes en Europe ont elles aussi des caractéristiques socio-démographiques spécifiques et donc des niveaux de prévalence de la pratique différents, sont originaires aussi de régions parfois très spécifiques. Donc ce sont des éléments à prendre en considération, notamment pour les femmes arrivées dans les pays européens à l'âge adulte. Et puis après, effectivement, il y a l'effet de la migration et de l'installation dans les pays où la pratique n'existe pas. Et là, je pense qu'il est vraiment nécessaire de pouvoir développer des enquêtes qui sont ciblées sur cette question afin justement de mieux comprendre les mécanismes de l'abandon ou de la perpétuation de la pratique en contexte migratoire. Et à ce titre, je pense que les analyses développées dans les pays d'origine à partir des EDS, et notamment qui étaient des analyses présentes dans le rapport UNICEF réalisé par Claudia Capa, sur les rôles des communautés dans lesquelles évoluent les individus, sont particulièrement éclairantes et pourraient être des approches tout à fait pertinentes et des approches à suivre aussi dans les enquêtes réalisées dans les pays européens. Il s'agirait alors de prendre en compte d'autres variables que les seules variables individuelles classiques, mais de s'intéresser aussi à des variables au niveau communautaire et au niveau des réseaux sociaux. Donc, dans les méthodologies communes qui vont être développées au niveau européen, je pense qu'il est justement particulièrement important d'avoir des modèles qui prennent en considération ces différentes catégories de population, puisque les questions se posent aussi différemment dans les pays européens, selon notamment l'ancienneté des flux migratoires. Et là, on a quand même une grande variété de situations et aussi d'origine des populations. Je voudrais aussi aborder la question qui a été abordée dans pratiquement les trois présentations, la question de la sensibilité de la question des mutilations sexuelles féminines, puisqu'elle apparaît et elle est souvent mise en avant, je dirais presque évidente dans les pays européens, où la pratique justement est interdite, sanctionnée, socialement stigmatisée. Mais elle se pose finalement beaucoup moins, même si Claudia Capa l'a un petit peu évoqué, et j'étais tout à fait contente qu'elle le dise. Mais finalement, cette question est moins abordée dans les pays d'origine, dans les pays africains, avec l'hypothèse que la pratique étant finalement quelque chose d'admis socialement, d'intégré, d'historique, il est facile de l'aborder avec les femmes. Personnellement, pour voilà, l'avoir expérimenté aussi sur un terrain au Mali, je n'en suis pas si certaine. Qu'en est-il par exemple des pays où les législations depuis le début des années 2000 se sont quelque peu durcies ? Qu'en est-il des pays aussi où la pratique ne concerne que quelques communautés très minoritaires ? Et de la même façon qu'il est assez compliqué pour une femme enquêtée, par exemple en France, de dire que ça ou ses filles sont excisées, on peut aussi imaginer que dans certains contextes des pays d'origine, il y ait également une sous-déclaration. D'où l'importance aussi, par exemple, d'avoir des informations sur les intentions éventuelles d'excision qui ne se limitent pas à la mère, mais qui s'étendent aussi aux proches. Donc ça, c'était plus des questions qui s'adressaient à Claudia Capa. Je ne sais pas si elle est là à distance ou non. Et donc, je terminerai sur la question du type de mutilation. Donc cette question, comme l'a rappelé Armelle Andreau, a toujours fait l'objet de controverses, donnant lieu d'ailleurs à l'utilisation récente d'une nouvelle classification, mais elle reste toujours relativement un petit peu problématique. Tout d'abord, indépendamment du contexte géographique, les femmes sont-elles vraiment en capacité de qualifier leur mutilation ? Et cela a été rappelé à la fois dans la première et la troisième présentation. Une possibilité, effectivement évoquée, peut-être de disposer d'une double déclaration, celle de la femme et celle d'un professionnel de santé, après examen médical, mais ce qui suppose, comme cela a été dit, évidemment des formations préalables des professionnels de santé pour repérer ces différents types de mutilations. Mais au final, comme le montre Armelle Andreau, cette typologie qui est basée sur la gravité théorique de l'acte pratiqué et sur son caractère plus ou moins invasif, et qui serait ensuite finalement déterminant dans la plus ou moins grande gravité des conséquences, n'est pas complètement satisfaisante. En effet, le contexte dans lequel l'excision a été pratiquée, le contexte aussi social et économique dans lequel la femme vit, la possibilité et la qualité de sa prise en charge, non seulement au moment des accouchements, mais également tout au long de sa vie, vont être des éléments particulièrement déterminants dans la manière finalement dont les femmes vont subir ou non, et avec une plus ou moins grande gravité, les conséquences de cette mutilation. Et donc cette proposition de nouvelle classification, qui se baserait sur la gravité des conséquences réelles de l'acte, et qui prendrait notamment en considération les effets de contexte, semble effectivement tout à fait pertinente et en tout cas mérite d'être explorée plus en profondeur, notamment au regard des résultats d'enquête abordant ces questions dans des situations sanitaires favorables. Donc j'aurais un petit peu deux questions, une question un petit peu provocatrice. Finalement, faut-il continuer à poser cette question dans les enquêtes ? Que ce soit dans les enquêtes EDS ou d'autres enquêtes. Et un peu plus sérieusement, est-elle finalement cette question, cette de changement un petit peu de regard sur la classification, est-elle finalement aussi pertinente dans d'autres contextes, notamment dans des contextes où la prise en charge sanitaire n'est sans doute pas aussi favorable. Et j'avais une question un petit peu spécifique aussi là pour la première présentation, puisque dans les enquêtes EDS, qui sont au départ en fait des enquêtes très ciblées sur les questions de santé reproductive, il existe un certain nombre de variables relatives à la santé, au moment des accouchements, mais aussi à la sexualité. Et je pense qu'il pourrait être tout à fait intéressant de tester peut-être cette proposition de classification, puisque les enquêtes EDS permettent aussi d'avoir les variables de contexte. Et est-ce qu'un tel travail systématique, à partir des données DHS et éventuellement mix, qui mettrait en relation certains risques de santé avec l'excision, est-ce qu'un tel travail est envisagé à la suite de ce qui a déjà été fait ? Voilà, je m'arrêterai là.